12h15. Le journal Martha Duarte.
Bonjour. Stan Wawrinka s'est sorti d'un match difficile. Le Vaudois a dû se battre pour venir à bout d'Andreas Seppi à l'Open d'Australie de tennis. Il s'est qualifié après 3 sets très serrés. Roger Federer se débat, lui, avec le japonais Kei Nishikori en ce moment. Un village médiéval se terre à l'ouest de Kure. Des fouilles ont permis de mettre à jour des vestiges archéologiques. Aujourd'hui, le site est protégé. À quoi ressemblait le village? Qu'est-ce qui a été conservé? Qu'est-ce qui reste à découvrir? Nous répondrons à ces questions dans notre magazine. Et météo, la journée se poursuivra sous le soleil avec simplement quelques voiles. À basse altitude, en revanche, les nuages se montrent tenaces. Les températures restent froides, entre moins 4 et 3 degrés au meilleur de l'après-midi. Roger Federer se débat en ce moment avec le japonais Kei Nishikori. Le Balois joue sa place pour le quart de finale de l'Open d'Australie de tennis. Après un premier set raté, Roger Federer a fait un retour fulgurant en s'imposant 6-4 et 6-1 dans les deuxième et troisième manches. Il a en revanche perdu le quatrième set 6-4. Et dans le cinquième set qui se joue en ce moment, le score est pour l'heure de 3-0 pour Roger Federer. Stan Wawrinka a lui déjà gagné sa place pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Le joueur de tennis vaudois a validé sa qualification ce matin en prenant la mesure de l'Italien Andreas Seppi. La rencontre a été très serrée, en témoigne le score 7-6, 7-6, 7-6 après 2h43 de combat. À l'heure de l'interview, il y avait une certaine satisfaction dans la voix de Stan Wawrinka.
Très content de mon match aujourd'hui, ça a été un match très serré, 3-7, 3 tie-break, mais très complet, un très bon niveau de jeu et voilà, je suis très satisfait d'avoir passé et d'être en quart de finale. Je pense pas que ça a été plus difficile que prévu aujourd'hui, au contraire, ça a été un très bon match, très solide, encore une fois, contre un joueur qui jouait très bien. Moi, je suis content de mon niveau, je suis content de ce que j'ai produit aujourd'hui, gagner 3-7, 3 tie-break, je serai serré avec par moment du très très bon tennis, c'est très bien pour la suite.
En quart de finale, Stan Wawrinka affrontera le Français Joe Wilfried Tsonga mardi et on reviendra sur la suite de l'actualité sportive dans le point sport. En Italie, il n'y a plus aucun signe de vie dans l'hôtel enseveli par la neige mercredi passé. Au total, 9 survivants ont été retrouvés et 5 corps sans vie. Les secouristes mobilisés poursuivent leurs recherches dans des conditions extrêmes. Le risque d'une nouvelle avalanche est présent. Le suspense est total en France. C'est aujourd'hui que se joue la primaire de la gauche. À 3 mois de l'élection présidentielle, le camp socialiste doit départager 7 candidats. Parmi les prétendants, un trio se détache dans les intentions de vote. L'ex-premier ministre Manuel Valls et 2 anciens ministres Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 19h. Le bilan s'alourdit après le déraillement d'un train en Inde. Plus de 30 personnes ont perdu la vie hier soir. 8 des 21 voitures ainsi que la locomotive ont déraillé. Environ 50 passagers ont aussi été blessés. Les autorités n'excluent pas qu'un acte de sabotage de la rébellion maoïste soit à l'origine du désastre.
Le magazine.
Des vestiges archéologiques se cachent à Kure. Le village médiéval disparu de Mevilliers se trouve sur la plaine de la Birse, à l'ouest de la commune. Il a été découvert lors de l'aménagement d'une route d'accès pour un quartier résidentiel. En 2010, une demande de permis de construire a été déposée pour ce site, mais celle-ci a été rejetée car le service archéologique du canton de Berne a estimé que le projet risquait d'endommager les restes du village. Après plusieurs recours, l'affaire a connu son épilogue en décembre dernier, lorsque le tribunal fédéral s'est rallié à l'avis du service archéologique. Si les fouilles sur ce site ne sont pour l'instant pas une priorité, les vestiges doivent tout de même être protégés. Christophe Gerber, archéologue du Jura bernois et chef de projet au service archéologique du canton de Berne, nous parle de ce village.
On sait que Mevilliers, c'est un village d'après la toponymie qui a été fondé probablement vers la fin du Haut Moyen-Âge, donc vers le 900 après Jésus-Christ, et que ce village, il a progressivement grandi, s'est accru, et puis il a disparu pour une raison qu'on ne connaît pas vraiment au XIVe siècle. On peut imaginer que c'est lié en fait à la situation topographique. On est dans une région assez humide, avec des ruisseaux, des sous-sols qui est assez marécageux. Et puis, avec un climat qui était peut-être en train de un peu changer, etc., c'est devenu inhabitable au point où on a, à un moment donné, quitté les lieux, quoi.
Quelle est son importance pour la région ?
Alors, ce qui est très intéressant, en fait, ici, c'est que comme on est dans un milieu humide, on a énormément de choses organiques. Donc, ça peut être des objets, de la vaisselle en bois, des couteaux, des manches d'outils, etc., en bois qui sont conservés. On a également donc toutes les substructions des bâtiments. Et en plus de ça, bien évidemment, tout le mobilier classique, traditionnel qu'on trouve, la céramique, cattel de poêle, etc. Et puis on en a vraiment des grosses, grosses quantités. Le bois a l'avantage, quand il est conservé, c'est qu'il nous permet de faire de la dendrochronologie. Donc on peut dater de manière extrêmement précise les différents vestiges, et puis aussi toute la dynamique de construction du village. Alors c'est ce qui fait en fait que Mévilliers, comme c'est une zone aujourd'hui qui est un peu perdue dans la nature, si on veut bien, est une occasion rare et unique d'avoir un site qui est parfaitement préservé et qui peut livrer énormément d'informations, d'où son importance nationale.
Comment il a été fouillé et actuellement, qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Est-ce qu'il n'est pas beaucoup mis en valeur, on a l'impression ?
C'est vrai, il n'est pas vraiment mis en valeur. Donc les fouilles, ben, elles ont été réalisées au gré en fait, des constructions. On a relevé ça par la photo, documentation par le dessin, etc. On a prélevé couche par couche les objets. Et tout ça, pour l'instant, c'est vrai, c'est stocké chez nous au service archéologique. Il n'y a pas eu d'études globales. Il y a eu des études ponctuelles qui ont été faites, notamment de certains ensembles céramique pour être présenté à la communauté scientifique il y a quelques années lors d'un grand congrès. Et puis, il était prévu en fait de réaliser un peu à l'ouest en fait ici du village une grosse mesure de compensation écologique. On a réussi à la restreindre à un minimum parce qu'en fait elle était placée, située en plein dans la zone du village. Et puis on a motivé en fait les autorités fédérales et cantonales pour éviter en fait de construire à cet emplacement-là, de réaliser cette mesure d'aménagement telle qu'elle était prévue pour pouvoir préserver le site, quoi.
Est-ce que tout a été découvert sur ce site ?
Non, alors de loin pas. On pense qu'on a, grosso modo, par rapport aux estimations, parce qu'on a fait des très nombreux sondages en fait sur toutes les parcelles environnantes, on pense qu'on a peut-être un quart du village qui a été fouillé. Donc un quart, 5-6 bâtiments, etc. Il y en a un particulier qui était en pierre, donc une construction probablement sous la forme d'une espèce de tour ou quelque chose comme ça, et qui montre peut-être un statut aussi social, un peu différent pour son habitant. On ne sait pas si c'était un délégué en fait, du prince-évêque, ici sur place, ou si c'était simplement une personnalité importante qui avait un lien peut-être avec l'exploitation du minerai de fer ici dans la région. Parce que c'est une chose qu'il faut peut-être encore signaler, c'est qu'on a trouvé énormément de scories en fait, sur le site ici, des scories qui ont servi à assainir les sols qui étaient un peu humides. Et ces scories proviennent de l'exploitation de minerai de fer qui battait son plein justement pendant la grande période du village de Mévilliers.
Une interview réalisée par Léandre Béret. Pour l'instant, le site archéologique est protégé. La seule utilisation possible est donc l'agriculture. Et pour la suite, Christophe Gerber souhaiterait que ce village soit mis en valeur, par exemple, via une publication. Et vous pouvez réécouter cette interview dans son intégralité sur notre site internet. Et on retourne du côté de Melbourne avec vous, Jérôme Beuchat.
Eh oui, grosse tension à l'Open d'Australie, puisque Roger Federer joue actuellement contre le japonais Kei Nishikori sur la Rod Laver Arena. C'est un huitième de finale. Les deux hommes sont dans la cinquième et dernière manche, et le score est de 4 jeux à 1 en faveur de Roger Federer. Le Balois a donc fait le break dans cette dernière manche. Et une journée qui pourrait donc être brillante après la qualification pour les quarts de finale ce matin de Stan Wawrinka en 3 manches face à Andreas Seppi, 7-6, 7-6, 7-6, vous l'avez entendu il y a quelques minutes dans le journal. Et juste avant la qualification du Vaudois, il y a eu un coup de tonnerre à Melbourne ce matin. Après l'élimination de Novak Djokovic au deuxième tour, c'est Andy Murray qui a pris la porte. Le numéro 1 mondial britannique a subi la loi de l'Allemand Misha Zverev en 4 manches. Et en parlant de manches, la première du slalom messieurs de ski alpin s'est déroulée ce matin à Kitzbühel. Après la descente hier, c'est un tout autre spectacle qui est présenté sur la Strife aujourd'hui. Deux Suisses se sont classés dans le top 10, Daniel Juhl 7e et Ramon Sennheiser 10e. On retrouve sur place notre correspondant Justin Gray.
Un parcours terriblement exigeant, tournant et glacé, voilà ce qui attendait les Salomeurs à Kitzbühel ce matin. Pour preuve, la liste impressionnante d'éliminés. On citera notamment le porteur du dossard rouge de leader de la discipline, le Norvégien Henrik Kristoffersson, une première pour lui depuis 2 ans, où les Salomeurs confirmaient Mathias Hargen, André Mirer, Manfred Meug, Manuel Feller. Les Suisses aussi ont payé sur ce tracé mouvementé. Lucas Erni a en effet connu sa 3e élimination de rang en Coupe du Monde. Résultat plus réjouissant, la 7e place de Daniel Yule à 92 centièmes du leader, le Britannique Dave Riding. Un écart important, mais pas forcément rédhibitoire sur une telle piste. Ramon Senhuizen sera aussi la partie en deuxième manche après son 10e rang à 1 seconde 53 de Riding. A noter encore que l'Autrichien Marcel Hirscher, leader du général de la Coupe du Monde, s'est classé 9e à 1 seconde 02. Un retour en deuxième manche est largement envisageable. Une deuxième manche qui débutera d'ailleurs à 13h30.
Les dames sont aussi à l'honneur. Aujourd'hui, elles disputent actuellement un Super G à Garmisch. Et après le passage de 13 concurrentes, eh bien c'est la Suissesse Lara Gut qui est en tête. Elle devance l'Autrichienne Stéphanie Werner et la Liechtensteinoise Tina Weirater. Mais sachez que Lindsey Vonn n'est pas encore descendue. Le HC Saint-Imier s'est fait plaisir hier soir. Les Bats ont écrasé Villars 10-0 à la patinoire de l'Erguel dans le cadre du Master Round inférieur de Première Ligue de hockey sur glace. Ce succès permet au HCSI de repasser du bon côté de la barre, synonyme de qualification pour les playoffs. Et dans le même championnat, le HC Franche-Montagne accueillit un joli succès sur la route. Les Teignons se sont largement imposés 8-2 à la patinoire de Montet hier soir. Les Jurassiens, déjà assurés d'une place en playoff, sont largement en tête du classement. Et on descend en 2e ligue. Le HC Moutier a commencé le Master Round inférieur par une victoire hier soir. Les Prévotois ont dominé le Locle 6-3 à la maison. Ce succès permet au HC Moutier de conforter sa place de leader de la hiérarchie. Et puis on a aussi joué en basketball hier soir. Le BC Boncourt a pris l'eau au bord du lac Léman. Les Ajoulots ont perdu contre les Lions de Genève 87-73 dans le championnat de Ligue Nationale A. Les Jurassiens ont payé leur départ catastrophique. Ils étaient déjà menés 32-8 après le premier quart-temps. Le BC Boncourt pointe à la 7e place du classement avec 10 points en 13 parties. Place désormais au derby de Liga de volleyball. Cet après-midi, Franche-Montagne attend le Neuchâtel Université Club au Breuleu. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Les Jurassiennes pointent à la 4e place du classement avec 27 points, soit 5 unités de moins que le NUC qui est assis un rang devant les Teignonnes. C'est dire si cette partie relève d'un grand enjeu. Le premier derby de la saison avait souri à VFM après un match serré en 5-7. D'ailleurs, les affrontements entre les deux formations sont à chaque fois spéciales, comme le confirme la capitaine du volleyball Franche-Montagne, Florencia Busquets.
C'est super important, principalement parce que c'est le derby, que normalement ici, il y a beaucoup d'ambiance, donc ça va être super intéressant, mais aussi pour la classification, pour nous, c'est la compétition plus proche, donc on doit profiter de cette opportunité.
Contre Neuchâtel, il faudra faire attention à quoi?
Principalement, la passesse, elle joue très vite. Donc chaque fois, il va être difficile de jouer contre la balle vite. Mais nous avons bien joué la dernière fois et ils sont aussi pas trop forts dans leur recette. Donc on peut profiter de ça.
Et du côté neuchâtelois, on a spécialement préparé ce derby. L'entraîneur a même laissé pour l'heure la Coupe d'Europe qui attend le NUC la semaine prochaine de côté. Sylvain Zindel a voulu se focaliser à tout prix sur la rencontre face à VFM.
C'est clairement un match très important du championnat. C'est surtout ça ce qui est important. On est complètement focalisé sur ce match dimanche. Ce qui se passe mercredi après, on va s'en occuper après. Mais maintenant, c'est le match dimanche contre Franche qui est important parce qu'on aimerait bien garder cette 3e place dans le classement.
Vous aviez perdu en début de saison contre VFM, c'était à domicile, il y a un petit air de revanche.
C'est pas si important si on a gagné ou perdu le premier match, on a vu que c'était un match équilibré, nous on n'a pas forcément bien joué, mais joueurs sont toujours très motivés de jouer contre VFM parce que c'est toujours une certaine agressivité du côté VFM contre nous, alors on est bien prêt et aussi mentalement tout le monde est prêt et motivé.
Un dossier réalisé en collaboration avec Léonard Reichen, VFM NUC, c'est à vivre ce soir sur RFJ dès 17h. Et puis on part encore un petit coup du côté de l'Australie pour vous dire que Roger Federer et Kei Nishikori sont toujours à la lutte. C'est 4-1 pour Federer dans le 5e set et on en est à égalité maintenant sur le service du japonais.
Journal du Monte-Carlo avec la gamme de véhicules Ford 4x4 à découvrir et essayer au garage de la Rochette à Tavannes, votre nouveau partenaire Ford de la région.
Olivier Bourri est tout proche de décrocher un nouveau podium sur les routes monégasques. Il occupe toujours la deuxième place du classement général amateur, alors qu'il ne reste plus que deux spéciales à parcourir aujourd'hui. Le pilote de Belpraon a concédé 10 minutes de retard sur le Suédois Pontus Tindemand, mais il a à peu près un quart d'heure d'avance sur le troisième du classement. Et sachez que le leader du classement général Scratch, eh bien, est toujours le Français Sébastien Ogier.
Journal du Monte-Carlo avec la gamme de véhicules Ford 4x4 à découvrir et essayer au garage de la Rochette à Tavannes, votre nouveau partenaire Ford de la région.
Et l'actualité, c'est à découvrir en tout temps sur rjb.ch et rfj.ch. La météo est ce dimanche, persistance d'un temps bien ensoleillé avec tout de même quelques voiles d'altitude, quelques brouillards givrants qui vont rester encore quelques temps. Température restant froide et négative en pleine, ambiance plus agréable sur les hauteurs. Au niveau des températures justement, ce sera un moins 3 au meilleur de la journée en Ajoie, moins 3 dans la vallée d'Odolémont, moins 3 également dans la région de Moutier, moins 2 à Tavannes et la région de Tramelan, ou encore moins 2 à Saint-Imier et plus 3, eh oui, à Seignelégier ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds et du côté du Locle. Pour demain, on prend les mêmes et on recommence. Grisaille et brouillard givrant restant étendu le long du massif jusque vers 800 mètres d'altitude. Dissipation difficile en journée et grisaille restant souvent tenace. Cela mis à part, temps bien ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. Les températures vont rester froides et négatives au pied du massif. Ambiance plus agréable sur les hauteurs.